Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de l'actualité de ce mardi 29 mars avec le premier journal de la soirée, celui de Sébastien Legenny. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Et l'essentiel commence ce soir avec deux premiers signaux positifs dans la guerre en Ukraine.
Des signaux qui viennent de Turquie, là où deux délégations russes et ukrainiennes étaient réunies aujourd'hui. Des pourparlers substantiels selon Moscou, qui a décidé de réduire radicalement son activité militaire autour de Kiev. Les Ukrainiens estiment pour leur part les conditions suffisantes pour une rencontre entre Poutine et Zelensky. Nous serons à Istanbul dans un instant. Nous serons aussi à Moscou, où Decathlon a fini par décider de suspendre ses activités. Les derniers clients craignent de revenir à l'ère soviétique. Reportage à suivre. À suivre également le procès des attentats du 13 novembre. Salah Abdeslam n'était pas au départ prévu dans les commandos. Le très sensible rapport sur les EHPAD d'Orpea sera finalement publié dans les prochains jours. Éric Zemmour, qui reprend les mots de Sarkozy et de Pasqua en banlieue parisienne, et puis du théâtre d'enquête pour terminer entre journalisme et mise en scène.
À 18h15, un jour dans le monde, ce soir, une fois n'est pas coutume, nous allons chez les Russes parler d'abord avec Zoya Svetova, qui est journaliste pour Novaya Gazeta, qui a suspendu sa publication pour ne pas risquer une fermeture. Et puis nous avons enregistré ce matin Jonathan Little, l'écrivain scénariste qui connaît bien la Russie et qui, dans une tribune dans le monde il y a deux jours, dit aux Russes « Faites votre Maïdan, révoltez-vous », un texte sans mâcher ses mots. À 19h20, c'est le téléphone sonne et nous mettons ce soir les pieds sur un sujet bien compliqué pour certains d'entre nous, les NFT, ces jetons numériques qui aujourd'hui se vendent une fortune. Le sport, l'art, la mode s'emparent de ce phénomène qui pèse des milliards d'euros. L'Ukraine aussi d'ailleurs, qui crée un musée virtuel de cette guerre pour lever des fonds. Si vous ne comprenez rien aux NFT, on va essayer d'être clair. C'est le moment surtout de poser toutes les questions naïves du monde. Je vous rassure, les miennes le sont tout autant et ça se passe au 01 45 24 7000.
France Inter.
C'est donc un premier pas, mais la prudence reste de mise dans les chancelleries occidentales.
Ce sont les progrès les plus significatifs réalisés depuis le début de la guerre en Ukraine. La phrase est signée du ministre turc des Affaires étrangères, la Turquie, qui jouait en effet aujourd'hui les rôles d'intermédiaire entre Kiev et Moscou. Deux délégations ukrainiennes et russes se sont donc longuement parlé à Istanbul aujourd'hui. 3 heures de discussion en face à face, qui ne reprendront pas demain et qui, pour la première fois depuis plus d'un mois, ont semblé consistantes. Avec d'un côté la Russie qui se dit prête à réduire son offensive et de l'autre l'Ukraine qui met sur la table une proposition pour faire du pays un territoire neutre. Les précisions avec notre correspondante à Istanbul, Anand Lower.
La partie ukrainienne est arrivée à Istanbul avec une proposition claire, un mécanisme proche de l'article 5 du traité de l'OTAN qui assurerait à Kiev, en cas d'agression, un soutien militaire de plusieurs pays garants. Tout cela sans rejoindre l'OTAN comme l'exige la Russie. David Araramia, négociateur ukrainien.
Les conditions sont suffisantes pour une rencontre entre les deux présidents. Ce n'est pas encore officiel. C'est tout ce que l'on espère pour connaître une nouvelle Ukraine d'un point de vue sécuritaire. Nous insistons pour qu'il s'agisse d'un accord international signé par tous les garants de la sécurité.
De son côté, la partie russe a salué des discussions substantielles et assuré que les propositions ukrainiennes allaient être soumises à Vladimir Poutine. La rencontre a eu un premier effet sur le terrain militaire, annoncé depuis Istanbul par le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomin.
Il a été décidé pour accroître la confiance de réduire radicalement l'activité militaire en direction de Kiev et Tcherniv. On attend la décision de Kiev pour continuer le travail dans cette direction.
Prochaine étape, selon le ministre turc des Affaires étrangères, une rencontre bientôt entre ses homologues russes et ukrainiens. À Nord-Loire, Istanbul, RFI pour France Inter.
Des premiers signes de détente salués par les marchés financiers, plus 3% à la bourse de Paris, de Francfort ou de Milan, la bourse de Moscou qui elle bondit de 7% et le rouble de 10%. Des avancées diplomatiques relativisées en revanche par les États-Unis et la Grande-Bretagne. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie à Washington, dit ne pas voir de signe de réel sérieux de la part de la Russie dans les discussions. Londres jugera Moscou sur ses actes, pas sur ses paroles, selon Downing Street. En attendant une véritable éclaircie diplomatique, l'isolement de la Russie est toujours plus fort. Aujourd'hui, plusieurs pays européens ont décidé d'expulser des dizaines de diplomates russes soupçonnés d'espionnage. Expulsion de 21 diplomates en Belgique, de 17 russes aux Pays-Bas et de 4 hauts diplomates en Irlande. Sur le plan économique, Decathlon a fini aussi par céder céder à la pression. L'entreprise du groupe Muliez a décidé de suspendre ses activités en Russie, expliquant que les conditions d'approvisionnement n'étaient plus réunies. Décathlon en Russie, c'est 60 magasins dans 25 villes russes. Derniers achats de baskets à Moscou, c'est le reportage de notre correspondant Sylvain Tronchet.
Ils sont quelques-uns comme Elena à passer pour la dernière fois au Décathlon Sokolniki dans la banlieue de Moscou. La jeune femme a acheté du matériel de randonnée avant qu'il ne soit trop tard.
Alors que nous venions ici, nous avons appris que ça fermait sur le canal Telegram de la BBC. Et on s'est dit qu'on avait de la chance d'y aller. Alors j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin.
Le premier Décathlon avait ouvert en 2006 à Moscou. En 16 ans, l'enseigne est devenue très populaire dans le pays, mais comme Ikea, comme H&M, comme Uniqlo, elle s'en va, constate avec déception Sergueï.
On avait pris des habitudes depuis des années et c'est difficile de s'en détacher. Et en plus, tout le monde s'en va. Qu'est-ce qu'on va faire ? Aller au marché aux puces, comme dans les années 90, pour acheter des contrefaçons Habibas ?
Anna a elle aussi acheté un tapis de yoga avant qu'il ne soit trop tard. Cette jeune femme regrettera l'enseigne, mais elle choisit ses mots pour dire que l'essentiel est peut-être ailleurs.
Bien sûr, nous subissons tous cette situation et tout le monde ressent les conséquences des décisions et des événements actuels. Mais ce qui me rend triste, ce n'est pas la fermeture d'un magasin. Il y a d'autres choses qui se passent qui m'attristent bien plus.
De l'autre côté de la galerie commerciale, le Roi Merlin reste ouvert, mais pour combien de temps ? Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
En revanche, les deux autres enseignes du groupe Muliez, Auchan et Leroy Merlin, poursuivent leurs activités en Russie. Une démarche que comprend Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle. Je ne voudrais pas, dit-il, qu'une fermeture radicalise les Russes et que ça les soude autour de Poutine. La Russie, qui par ailleurs met aussi la pression sur les Occidentaux concernant ses ventes de gaz. Le Kremlin insiste pour être payé en roubles. Personne ne va livrer de gaz gratuitement, explique le porte-parole du Kremlin. C'est tout simplement impossible. Et on ne peut le payer qu'en rouble.
En France, l'actualité est judiciaire avec un accusé très bavard au procès des attentats du 13 novembre.
Les assises spéciales de Paris sont désormais plongées au cœur des attentats eux-mêmes, les derniers préparatifs, les dernières heures avant le passage à l'acte. Et un individu avait promis de faire des révélations. Mohamed Abrini, le meilleur ami d'enfance de Salah Abdeslam, l'homme au chapeau des attentats de Bruxelles. Il était interrogé aujourd'hui par la cour. Bonjour, bonsoir Charlotte Firet.
Bonsoir.
Bonsoir. Mohamed Abrini qui confirme d'abord qu'il devait faire partie des commandos du 13 novembre et vraisemblablement du commando des terrasses.
Oui, monsieur Abrini, levez-vous. Vous pouvez enlever votre masque si vous voulez. Vous avez raison, monsieur le président, bas les masques. C'est ainsi qu'ont débuté les plus de 4 heures d'interrogatoire de Mohamed Abrini. Ses retrouvailles avec son ami d'enfance, Abdelhamid Abaoud, tout d'abord. Tous deux se sont vus en Syrie quelques semaines avant. Ils se retrouvent dans une planque de Charleroi en septembre. Là, il me dit « tu vas faire partie d'un projet », raconte l'accusé, chemise blanche et barbe taillée. « Moi, je ne dis pas non, je ne peux pas affronter Abaoud. » Alors, vous vous comportez comme un des futurs auteurs des attentats, souligne l'avocat général. Car Mohamed Abrini est de tous les préparatifs. Il est aussi dans l'une des 3 voitures qui met le cap vers Paris le 12 novembre. À ce moment-là, Mohamed Abrini l'assure pourtant. Il a déjà prévenu la cellule qu'il ne ferait pas partie des commandos. Parce que je ne suis pas capable de tirer comme ça dans la rue. Je ne peux pas attaquer des gens non armés, lance-t-il. Arrivé à Bobigny, Abaoud tente encore de le convaincre. En vain, Abrini prend un taxi, rentre à Bruxelles à 5h du matin. Et là, dans la solitude de cette nuit, interroge Maître Topalov. Il ne vous vient pas l'idée que vous pouvez éviter les attentats, passer un coup de fil, même anonymement. C'est des amis, je suis dans une position compliquée, lâche Mohamed Abrini, qui préférera donc rejoindre une planque et le reste de la cellule, celle qui commettra ensuite les attentats de Bruxelles.
Charlotte Pirin en direct du Palais de Justice de Paris avec Romain Lucquens. Demain, retour à la barre de Salah Abdeslam. Le procès de l'accident de car de Rochefort en 2016, 6 adolescents tués dans un car scolaire disloqué par un camion ben. Le procureur a requis 5 ans de prison, dont 3 ans avec sursis contre le chauffeur Mathieu Sorel, âgé de 29 ans, responsable d'un accident gravissime mais pas un meurtrier selon l'accusation. La campagne présidentielle, on y vient avec Éric Zemmour qui surfe sur l'actualité à Sevran aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, théâtre de plusieurs nuits de violence après la mort d'un homme tué d'une balle tirée par la police samedi dernier. Une enquête est en cours. Eh bien, le candidat d'extrême droite s'est rendu aujourd'hui au commissariat de Sevran. Bonsoir Élodie Forêt.
Bonsoir.
Éric Zemmour qui, je cite, a promis d'éradiquer la racaille.
Oui, nous éradiquerons la racaille comme il fait
fallait terroriser les terroristes, a lancé Éric Zemmour à la presse devant un local incendié, reprenant ainsi une citation de Charles Pasqua. Un déplacement à Sevran qui s'inscrit dans une logique de séquence coup de poing pour mobiliser ses électeurs. Paris entrepris dès la semaine dernière avec une incursion sur la colline du Crac à Paris pour l'émission Morandini Live, mais surtout avec une mesure annoncée sur M6, la création d'un ministère de la remigration, reprenant ainsi un concept de l'extrême droite identitaire. Radicaliser le discours pour faire parler de soi et recréer une dynamique, c'est maintenant que ça se joue dans les derniers jours, veut croire le vice-président de Reconquête Guillaume Pelletier. Mais la stratégie de la radicalité en interne fait débat. Quant à contrario, Marine Le Pen et sa campagne sans coup médiatique semblent lui réussir. Des propositions choc comme la remigration, on en a encore une ou deux en stock, me confiait ainsi tout à l'heure un membre de l'équipe, mais on s'interroge sur la pertinence de les sortir maintenant. L'expression d'un doute donc, alors que le candidat continue de stagner, voire baisser dans les sondages.
Élodie Forêt du service politique d'Inter. Et puis parmi les autres candidats, Valérie Pécresse, elle est de retour sur le terrain depuis aujourd'hui. Après sa contamination au Covid, rencontre avec des chefs d'entreprise à Marc-en-Barœul, près de Lille, la candidate des LR qui se dit la candidate du pouvoir d'achat. Anne Hidalgo, elle se déplace à Nancy aujourd'hui, la candidate socialiste qui a dénoncé ce matin sur notre antenne une campagne de bruit et de fureur et un Emmanuel Macron qui marche à cloche-pied uniquement sur sa jambe droite. C'est un rapport sensible qui peine à sortir depuis quelques jours. L'enquête administrative sur le fonctionnement des EHPAD d'Orpea. Un rapport de l'IGAS qui pointe des dysfonctionnements graves, mais que le gouvernement jusqu'à aujourd'hui n'entendait pas publier au nom, nous disait-on, du secret des affaires. Changement de politique cet après-midi devant la commission d'enquête du Sénat. La ministre déléguée à l'autonomie, Brigitte Bourguignon, annonce sa publication prochaine, mais peut-être expurgée. On l'écoute.
Le gouvernement ne s'est jamais opposé à la publication du rapport d'inspection. Seul le groupe Orpea peut l'empêcher, au titre notamment du secret des affaires. J'ai lu ce dimanche, comme vous, dans un quotidien, que le président du groupe Orpea regrettait également la non-publication du rapport. Si les regrets exprimés par M. Charrier se confirment, alors je lui demande de lever le secret des affaires sur tout le rapport. Pour l'instant, le directeur général France d'Orpea m'a répondu qu'il ne voulait pas lever ce qui est couvert par le secret des affaires. Je regrette ce recul par rapport aux propos tenus ce dimanche. Dans ces conditions, j'ai décidé avec Olivier Véran de publier le rapport d'ici quelques jours, en veillant bien sûr à occulter les parties qui doivent l'être, si Orpea confirme toujours ne pas vouloir lever totalement le secret des affaires.
La ministre Brigitte Bourguignon qui a aussi fait le bilan des contrôles des dernières semaines depuis l'éclatement de l'affaire Orpea. 230 établissements signalés ont été contrôlés par les agences régionales de santé. Un tiers ont reçu des injonctions ou des sanctions. Certains ont été mis sous administration provisoire ou même fermés.
Et puis Sébastien, on termine avec un nouveau concept théâtral.
À mi-chemin entre le journalisme et le théâtre depuis quelques années, la commune à Aubervilliers en Seine-Saint-Denis présente des pièces d'actualité. Aujourd'hui, elle va plus loin avec une enquête sur scène, Libye, l'enfer des exilés, une création Amélie Perrier où le travail des reporters prend une ampleur inédite.
D'habitude, il reste derrière la caméra pour raconter les soubresauts du monde. Mais le documentariste pour la télé, Jean-Baptiste Renaud, a ressenti un jour le besoin de trouver un nouveau format.
On fait des enquêtes très longues, plusieurs années, puis il y a un sentiment qui reste tout le temps, c'est de se dire qu'on n'a pas tout utilisé. Et l'idée, c'était ça, c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre endroit pour raconter la même chose, mais en plus développé, en plus libre.
Alors avec Étienne Huvert, il raconte sur scène la route des migrants et montre leurs images dans la longueur, comme ce sauvetage en mer, en pleine nuit, tourné par Étienne.
J'ai regardé mes images, j'étais avec une collègue allemande, on est resté 45 minutes, on se dit c'est incroyable, ça pourrait presque faire un documentaire en soi. Et là, on peut vraiment être en immersion et amener les spectateurs en immersion avec nous.
Le théâtre pour transmettre aussi leurs émotions de reporters, leurs questionnements partagés entre l'excitation de rapporter des images rares et les drames qui se jouent devant leur caméra. Une forme de récit nouvelle, encore que, nous dit la metteuse en scène Marie-Josée Malice.
Ils ont vraiment considéré le théâtre comme à son origine, c'est-à-dire le lieu où physiquement on se rassemble pour examiner tous ensemble un problème. Bien sûr, on touche moins de personnes, mais on les touche mieux.
La directrice de la commune qui ne compte pas s'arrêter là, cette enquête se poursuivra dans d'autres épisodes sur scène.
Libye, l'enfer des exilés, c'est au théâtre de la commune jusqu'au 3 avril à Aubervilliers, puis au théâtre de la Vignette à Montpellier du 6 au 8 avril.
Sébastien Longeny, merci beaucoup. À tout de suite, Sébastien, dans Un jour dans le monde, dans Sous les radars. Grâce à vous, nous allons notamment rencontrer un Japonais payé à ne rien faire, mais qui gagne très bien sa vie. Ce soir, avec le grand témoin d'Un jour dans le monde, nous allons en Russie parler à la fois avec Zoya Zvetova, qui est journaliste à Novaya Gazeta et qui réagira à une tribune de Jonathan Little qui exhorte les Russes à se révolter, une tribune parue dans Le Monde. Et puis en deuxième heure, je vous remets le téléphone sonne dans l'oreille, on va parler des NFT, ces œuvres, ces images, ces objets virtuels qui se vendent des sommes folles. Je vous entends dire, oh là là, moi j'y comprends rien. Ben, ça tombe bien, moi non plus, j'y comprends pas grand chose. On va essayer de comprendre ensemble tout cela et ça se passe au 01 45 24 7000. Un œil sur le ciel, s'il vous plaît.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Élodie Calac, bonsoir. Nuages et averses au programme de demain, Élodie.
Exactement, il faudra composer avec quelques averses de la Manche et de la frontière belge vers l'Île-de-France, le centre-Val de Loire, la Nouvelle-Aquitaine. Entre les Pyrénées, le Massif central, l'Est de la Lorraine et l'Alsace, de la pluie au programme. Pareil pour la Corse, seulement quelques gouttes entre la Méditerranée et l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis il y aura également du vent en Méditerranée jusqu'à 50 à 60 km à l'heure et un vent de nord-est près de la Manche.
Et les températures de saison ?
Proche des valeurs de saison en effet, alors 11 à 16 degrés l'après-midi jusqu'à 19 pour le sud-est. Et puis la baisse des températures, elle va se poursuivre pour la fin de la semaine. Elle pourrait même s'accompagner d'un épisode neigeux entre jeudi et vendredi, mais il y a encore vraiment beaucoup d'incertitudes, donc on précisera ça dans les jours qui viennent.
Eh bien on attend ça, merci beaucoup Élodie Calac de Météo France.